Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Corinne Rondeau et Julien Gester se font face à notre affiche. Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot, Mon roi de Mai Wen. Nous évoquerons aussi la rétrospective intégrale Yervant Djanikian et Angela Riciluki. Riciluki, c'est au centre Pompidou à Paris. Et nous parlerons du Chant du Nil de Joaquin Pinto. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Ce soir, le jeu de la dispute vous fera gagner des DVD du film Roland Barthes, Le théâtre du langage, coécrit par Chantal Thomas et Thierry Thomas, distribué par INA Édition. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'historienne de l'art et présidente du musée Guimet, Sophie Macariou, qui est toute cette semaine l'invitée de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec un film sorti mercredi dernier, passionnant, complexe à bien des égards, dans le fond et dans la forme, Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot. Un sous-titre proposé pour ce documentaire, composé d'un montage d'archives, explicite le propos « Allemagne 1965-1977, de la bataille des images à la lutte armée ».
L'Allemagne n'est pas stable. Je crois seulement dans la jeunesse.
Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, les survivants préfèrent oublier, mais leurs enfants ont du mal à comprendre ces images.
Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind.
Sie verteilen Flugblätter, in denen ihre Lehrer als professorale Fachidioten bezeichnet werden.
Uns interessiert speziell der politisch engagierte Film.
Mit Filmkameras, dann agieren wir auch nur in einem anderen technisch-chemischen Verfahren.
Sondern wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt.
Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss.
In Frankfurt am Main explodieren am 11. Mai 3 Bomben. In einem Bekennerschreiben verlangt die RAF eine Beendigung des Vietnamkriegs.
Wir haben die Gewalt nicht erfunden. Wir haben sie vorgefunden.
Alle Angeklagten stammen aus sogenannten geordneten Verhältnissen. Wie kommen sie zu ihrer Tat, vor allem...
Nein, meine Damen, das sind keine kritischen Geister, das sind destruktive Geister.
La seule chose où l'Allemagne est vraiment sûre, c'est dans la jeunesse.
Une jeunesse allemande sortie depuis mercredi dernier dans les cinémas. On commence avec vous, Corinne Rondeau.
Bah oui, vous avez dit le mot passionnant, c'est vraiment un film assez passionnant. C'est le premier long métrage de Jean-Gabriel Perriot, dont je connaissais un petit peu le travail déjà avant. Donc là, j'étais vraiment saisie par le film, parce que finalement, on pourrait dire c'est l'histoire de la bande à Bader. Mais en fait, on ignore vraiment cette histoire de la bande à Bader, d'où ils viennent. Ils viennent d'écoles de cinéma, ils viennent des écoles des Beaux-Arts, tous, d'une certaine manière. Et le film de Jean-Gabriel Perriot a, je dirais, une très grande qualité. C'est son montage de ses archives, qui suit effectivement la durée que vous, la période que vous avez 77. Indiquée. Donc il y a une chronologie qui remet en fait, je dirais, en déflagration la posture de ces jeunes intellectuels qui sont parfaitement intégrés à leur société. Ils sont reconnus, d'ailleurs, les premiers entretiens d'Ulrich Meinhof, qui fera partie de la bande à Bader, est quelqu'un qui est très écouté. On le voit dès les premiers entretiens.
À la télévision,
elle a des émissions, elle dirige la revue Concrète, elle est très impliquée dans la lutte ouvrière d'abord. Donc ils sont placés vraiment, tous ces jeunes, dans une époque dont la bande-annonce, on vient de l'écouter, est une manière de dire on ne veut pas oublier le passé, on veut regarder ce passé et construire notre société allemande à partir de ce passé-là, c'est-à-dire limiter les injustices d'une certaine manière et voir comment dans le présent qui est le leur, dans les années 60, voilà, le monde ouvrier est-il, etc., etc. Et ce qui est absolument formidable dans le projet de Perriot et dans ce montage-là, c'est de voir effectivement cette question de la déflagration de la place d'un intellectuel à cette époque-là, et en quoi finalement l'absence progressive de cette place par un durcissement idéologique conduit effectivement à prendre les armes. Donc je trouve que vraiment dans la progression du documentaire, cette manière de parler du monde ouvrier, puis ensuite cette parole politique du monde, de la société allemande, puis ensuite la prise de position contre la presse qui est tenue par Springer, qui est un truc qui envahit absolument tout l'espace médiatique de l'Allemagne de l'époque. Ensuite, cette prise de parole aussi, qui est une manière de renvoyer à la position que la télévision a dans l'espace aussi public, jusqu'à la politique, c'est-à-dire le politique, l'image du politique est intégrée au film de Perriot, au moment où effectivement ces jeunes qui sont en train de critiquer, de s'engager dans ce qu'ils appellent une profession de révolution, vient à s'amenuiser au fur et à mesure. Leurs paroles se délitent intégralement, leur place est de moins en moins présente. Mmh. Et ça, je trouve que ce film a une vraie dimension d'actualité pour nous aussi, puisque tout le film, c'est à la fois l'omniprésence de la violence, comment cette violence, dont ils disent dans des films qu'ils font, puisqu'on a beaucoup d'extraits de films qui sont absolument inédits, qui ont été tournés par ces jeunes qui étaient, avant d'être à la bande à Bader, des créateurs, des artistes, on va dire. Et donc, on voit bien qu'à l'intérieur de ça, ils mettent en scène ce monde de violence. Ils disent, on n'a pas inventé la violence, mais on vit dans cette violence. Donc, il faut bien réagir par la violence. Et ensuite, effectivement, un durcissement du discours de Ulrich Meinhof, par exemple, qui dit, s'il faut se battre pour avoir la liberté, eh bien, nous ferons la guerre. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où vous dites des phrases comme ça dans l'espace public, il se passe, évidemment, des contre-propositions qui vont pas aller dans leur sens.
Julien Gester, je reviendrai bien sûr vers vous, Corinne.
Je trouve le film tout aussi passionnant que vous. Ce qui me frappe vraiment, c'est cette capacité, en utilisant uniquement donc ces images d'archives, il n'y a pas d'adjonction de voix off exogène cette matière-là, ce matériau qui est proliférant, qui vient aussi bien d'archives, donc comme vous l'avez dit, aussi de films qui n'avaient jamais été vus, de la télé, de films personnels, de films d'école d'art, que la manière dont tout ça est agencé de manière chronologique va réinscrire tout ça dans une époque, mais va surtout réinscrire cette époque dans sa totalité, dans sa continuité et dans son présent. Et ce à quoi on assiste, c'est peu ou prou, finalement, la réédification pour le temps du film d'un pur présent qui est celui de cette époque. Et évidemment, c'est passionnant parce que ce présent, on le regarde depuis le nôtre. Et je trouve, c'est peut-être une impression erronée, mais quelque chose qui est très frappant dans le film aussi, c'est sa manière de rappeler, peut-être à travers cela, quelque chose qu'on a peut-être pas, enfin certainement pas oublié, mais j'ai le sentiment que dans les commentaires qu'il peut y avoir aujourd'hui d'une actualité elle aussi violente, et notamment de ce que peut-être la forme la plus contemporaine de la radicalité idéologique violente, on renvoie ça historiquement uniquement à des choses assez ancienne, qui permettent d'accréditer cette idée actuelle qu'aujourd'hui, cette forme de radicalité très, très violente ne passe que par le religieux, en fait. Évidemment, ce que nous renvoie cette époque et ce que nous renvoie le film, c'est qu'il y a une époque très récente où cette forme de radicalité très violente, elle n'était qu'idéologique, où elle était par-dessus tout idéologique, et que voilà, tout ça mute, évolue, et qu'au fond, ce présent-là qui se retrouve retissé sur l'écran pour nous, nous renvoie énormément de signes. Ce petit déplacement-là, qui n'est évidemment pas négligeable, mais qui est quelque chose voilà, qui tient presque à la matière de l'époque, nous renvoie quelque vraiment des signes, des échos très profonds, je trouve, très stimulants à la manière dont on peut traverser notre propre époque, ne serait-ce que par des données qui sont voilà, posées en contexte, le rapport à des guerres à l'étranger, la manière dont tout ça va... créer des déflagrations internes, la manière dont une jeunesse ne se retrouve pas d'identification. Cette jeunesse, ça n'est plus la même aujourd'hui, mais au fond, elle pourrait endosser des discours qu'on voit, en tout cas dans leur première phase, la jeune Meinhof, par exemple, tenir sur un plateau de télévision. La manière dont c'est une déconnexion qui s'opère entre cette jeunesse et des représentations qui sont presque caricaturales et qui le seraient, enfin qui le paraîtraient si elles n'étaient issues d'archives documentaires, d'une société dominée globalement par des mâles blancs âgés et cravatés. Et évidemment, la manière dont, comme vous l'avez dit, là-dedans font irruption aussi les médias de masse et en même temps que cela, une ère évidemment du soupçon, de la défiance vis-à-vis des récits majoritaires, vis-à-vis des images majoritaires et ce qui va susciter évidemment une contre-production d'images en quelque sorte. Mmh. Et pour moi, la vraie découverte du film, évidemment, c'est... ce que je pense qu'on en était peut-être sans doute tous au même point par rapport à ça, c'est de découvrir à quel point ces figures très identifiées, essentiellement pour leurs exactions terroristes des années 70, évidemment ont une production, ont documenté ce qu'ils étaient, ce qu'ils poursuivaient plus jeunes, là d'où ils venaient, qui ils étaient, leur photogénie aussi qui est très frappante et que le film interroge aussi d'une manière assez intéressante. Et... donc c'est un objet en cela pour moi très stimulant, mais surtout dans la confrontation presque du miroir d'un présent daté, mais présent tout de même, jeté sur le nôtre.
Alors sur le présent, mais enfin je m'éloigne pas du film, mais c'est vrai que le film nous incite à voilà avoir une pensée politique d'aujourd'hui. C'est ce que vous disiez aussi, Julien. Mais je pense que c'est effectivement la question de la violence aujourd'hui. Qu'on dit être lié à la religion, moi je crois qu'elle est toujours idéologique. C'est bien ce que nous raconte aussi ce film, c'est qu'aujourd'hui on veut nous dire telle religion, c'est le mal, c'est la violence. Non, c'est telle idéologie qui affronte telle autre idéologie. C'est ce qui, voilà, donc de ce côté-là, rien de nouveau, sauf que évidemment le discours dominant n'est plus le même.
De la violence d'une idéologie à une autre, voilà, c'est ce que rappelle le film finalement.
Absolument, mais c'est vrai que, alors, film passionnant, je le redis encore, mais c'est vrai, mais alors, avec... des moments aussi, mais qui font partie de la complexité de ce film, c'est-à-dire que sur la nature des images. Alors oui, il y a quand même quatre, me semble-t-il, moments de voix off surajoutés. C'est les moments où on nomme les membres principaux de cette bande, de cette future bande à Bader. Il y a une image arrêtée sur, voilà, sur Komainov, sur Andreas Bader, sur Ingrid, dont j'ai oublié le nom de...
Gudrun Enslin.
Merci. Et enfin...
Et Holger Mainz.
Merci Antoine Guillot de rappeler ces noms-là. Donc voilà, c'est vraiment le seul moment où il y a une intervention, on va dire, Jean-Gabriel Perriot. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a des images dont le statut est ambigu. Il y en a dont on sait très bien qu'elles viennent des films réalisés par ces jeunes gens, d'autres de la télévision. D'autres, voilà, qui sont un peu plus complexes à analyser. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Qui parle? Quelle est la propagande en action, on pourrait dire aussi. Donc ce qui n'est pas inintéressant. Et je pense que, évidemment, c'est à dessein que Jean-Gabriel Perriot montre tout cela. Alors, la première partie du film, c'est la plus longue, celle qui précède évidemment l'entrée dans la lutte armée. Elle est évidemment très documentée, comme vous venez de le rappeler. Et puis après, c'est l'angle mort du film. C'est évidemment quand on se met effectivement à poser des bombes, à enlever des gens, à les assassiner. Il n'y a pas d'image qui documente cela. Et on a un document qu'on n'a pas encore cité qui est très justement mis sur un écran noir, c'est l'enregistrement d'une partie du procès d'Ulrike Meinhof. Et là, voilà, on a juste les voix, le juge, elle, et c'est un choix absolument formel, impeccable, je trouve, de Jean-Gabriel Perriot, que d'avoir une image noire et non pas des photos qui seraient de l'entrée de la salle d'audience ou je ne sais quoi. On est là vraiment pour écouter ce qui se dit. C'est vraiment aussi un film qui s'écoute beaucoup. On a parlé de la photogénie de ces gens, mais ces moments-là, il y en a très peu, de Ulrike Meinhof dans la salle d'audience, sont parmi les plus forts alors qu'ils sont sur un écran noir.
Oui, mais parce que le film, sa progression, pour moi, ce qui m'a marqué, qui fait la force et l'aspect passionnant du film, c'est plus vous limitez la place de la parole politique, plus vous enlevez des corps. Et cet écran noir qui est en fait un enregistrement, puisque le juge, à un moment donné, dit...
Est-ce que le micro est allumé
Est-ce que le micro est branché? Et là, d'un coup, on se dit... Oh, il y a un problème. Et en fait, cet écran noir renvoie aussi à cette espèce de manière dont les corps représentent du politique. Et ces films représentent des corps. Je pense par exemple au film Drapeau rouge, où il y a un drapeau rouge qui est un témoin. Il court dans la rue, au milieu des voitures. Il tient ce drapeau. C'est rien et en même temps c'est tout. C'est-à-dire c'est un collectif qui n'a rien à dire, juste de se dire bon, ben il faut être dans cette rue autrement que comme on l'est d'habitude. Et ce que je trouve passionnant vraiment, c'est qu'au moment où il y a l'écran noir, où on ne donne plus la parole à Ulrike Meinhof, parce qu'on lui dit écoutez madame, vous n'avez plus rien à dire, alors qu'elle dit ce que vous faites en fait, c'est de m'isoler. En nous isolant, vous nous conduisez à la trahison, c'est-à-dire à nous intimider, à nous conduire en fait à l'aveu. C'est carrément foucauldien ce qu'elle dit. Enfin, elle n'a lu Foucault, mais c'est foucauldien. Ce film est foucauldien dans sa construction même. Et ce qui est très fort, c'est qu'une fois que le noir est arrivé, que Ulrike Meinhof, on a fait disparaître son image, puisque c'est l'image c'est celle qui est la plus présente à l'écran, parce que c'est vraiment la tête, ce sont des gens qui pensent. C'est la génération où tout le monde était politisé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Celui qui dit je suis politisé, on dit mais de quoi tu parles? Regarde Facebook et ne nous emmerde plus. Et là, on a à cet écran noir, d'un coup, toutes les télévisions. On a le chancelier Schmitt qui va parler, et on va avoir tous les représentants des partis politiques, la télévision, les présentateurs qui disent on les a arrêtés. Ils se sont suicidés. Puis c'est la fin sale, c'est l'apothéose. On a Godard au début, hein, dans la voix off au début, qui dit est-ce qu'un Allemand aujourd'hui peut faire un film?
Il peut faire une image.
Et à la fin, on a Fassbinder qui se met en scène quand il apprend la mort des deux derniers qui se sont suicidés. Donc Meinhof qui se pend dans sa cellule. Enfin, on ne sait pas.
Suicidé d'une balle dans la nuque. D'ailleurs, pour Andreas Bader.
Il rit. On ne pourrait pas dire ça, mais il dit ouais, il faut une enquête pour savoir s'ils sont suicidés. Bon, on a bien compris quoi. Et ensuite, il y a une discussion avec une femme. Je ne sais pas qui est cette femme.
Sa mère,
oui. Bon, j'imaginais. Et
la mère de Fassbinder.
La question, c'est la démocratie. Ce film questionne la démocratie, c'est-à-dire le mot derrière lequel tout le monde se met derrière. Et donc je laisse tout le monde aller voir ce film pour savoir quelle est la réponse de sa mère.
Et la sienne. Antoine Guillot, la vôtre, hein, sur une jeunesse allemande.
Deux choses d'abord, parce que j'ai lu ici et là des critiques qui, tout en reconnaissant l'intérêt du film, disaient qu'il était un peu réservé à des gens qui connaîtraient par cœur l'histoire de la bande à Bader. Ce n'est évidemment pas le cas.
Pas du tout.
Je crois que c'est une expérience encore plus forte quand on n'y connaît rien au départ, puisqu'on voit émerger...
C'est des gens qui n'ont pas vu le film, sans doute. On voit émerger
des figures qui, tout d'un coup, vont résonner aussi à ce qu'on connaît plus ou moins de cette histoire. Et deuxième chose, moi, effectivement, cette question du régime de la représentation, puisque ce qu'on voit, vous avez parlé d'angle mort, il y en a plein d'angles morts dedans, et notamment, on ne peut évidemment pas raconter le rôle de la CIA dans la répression du mouvement ouvrier en Allemagne, on ne peut évidemment pas montrer le soutien de la Stasi à la bande à Bader, où ils allaient se réfugier à Berlin-Est entre deux coups. Et ce que raconte le film, c'est précisément ce qu'il se passe entre ces propos de Godard au début et la réponse que donne Fassbinder à la fin. Le film met d'une certaine manière en scène la mort du cinéma, d'un certain cinéma, c'est-à-dire le cinéma auquel il croyait au départ. Il suffit de filmer, de montrer ces images aux ouvriers pour qu'ils prennent conscience de leur situation et qu'ils prennent les armes, qu'ils descendent dans la rue faire la révolution. On voit à quel point le langage lui-même se sclérosant dans une phraséologie complètement incompréhensible, évidemment inapte à toucher le public qu'il visait. Donc à partir du moment où ces images ne marchent plus, il faut y aller faire la révolution soi-même. Et la prise de pouvoir des images télévisuelles telles qu'elles sont mises en scène des deux côtés. C'est-à-dire, on voit apparaître effectivement le pouvoir politique qui montre la fermeté envers le terrorisme. Le terrorisme mais c'est encore les mêmes images qu'on voit aujourd'hui. Et ce qu'on très bien compris les terroristes actuels qui font de l'image télévisuelle, que ce soit ce que Daesh diffuse sur Internet ou même quand Oussama Ben Laden pense à la destruction des tours jumelles, il sait que ça va faire des images frappantes à la télévision. Sauf que Fassbinder, sa réponse dans cet extrait, c'est un extrait du film collectif L'Allemagne en automne, montre qu'un autre cinéma, justement, est possible et qui va s'emparer de ces questions politiques sur le terrain de l'intime. Donc ce régime des images et comment il s'est joué quelque chose de très important au moment du terrorisme des années 70 en Allemagne, en Italie et ailleurs. On pense aux films japonais aussi qui sont apparus de ces questions-là. Et un des grands éléments passionnants de ce film.
United Red Army. Ouais. Dernier mot, Julien Gester.
Oui, il faut peut-être dire aussi simplement que le film peut paraître de par le projet même tel qu'on le décrit là, quelque chose d'une entreprise un peu austère. Et on peut dire
pas
même,
du tout.
C'est au-delà du fait qu'on le trouve tous autour de cette table tout à fait passionnant, c'est un film qui est même parfois même drôle, enfin de manière paradoxale, surtout dans sa première partie. C'est un film extrêmement efficace. C'est presque parfois ça le met à des endroits un peu qui pointent des limites pour moi, mais qui sont quand même très très marginales. Et voilà, il y a une manière, même indépendamment presque de l'histoire et des trajectoires qu'il raconte, de retisser dans la première partie aussi tout le bouillonnement culturel de cette Allemagne-là, auquel ces gens étaient totalement associés. Ce qui s'opère dans un second temps, c'est la dissociation justement entre ce bouillonnement culturel qui va donner lieu à des mouvements artistiques énormes et absolument fascinants, et c'est la trajectoire de ces gens. Et que, pour reprendre cette image de l'angle mort que vous signaliez à l'instant, en fait, ces gens-là, à ce moment-là, lâchent presque leur caméra pour s'engouffrer en prenant les armes dans un angle mort qui va les faire disparaître aussi, qui va leur faire perdre cette bataille des images pour s'engager dans une autre bataille. Et le désenchantement que porte l'extrait de Fassbinder à la fin, comme vous le pointiez justement, fait, paradoxalement, enfin de manière presque performative, figure une forme de réenchantement du film. Parce que ces images-là se réimposent des images qui d'un coup, comment dire, apportent une conclusion certes désenchantée, mais qui se substitue au vide dans lequel se sont engouffrés ces gens jusqu'à leur perte.
Corinne, et on termine vraiment là-dessus.
Oui, non, mais la question du réenchantement, aujourd'hui, elle ne peut se passer que par le désenchantement. Ça, je pense que c'est une forme fondamentale, incontournable, sur laquelle on peut être. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Julien sur la question de l'espace culturel, il y a un auteur, Heinrich Böll, qui intervient. Ah, oui. Je le cite, « N'importe quel idiot à la télévision peut associer mon nom à des poseurs de bombes. Si on parle de sécurité, on doit aussi parler de la sécurité des intellectuels qui ont beaucoup de responsabilités. Ils doivent analyser, relativiser. Si ça continue, on va créer un désert intellectuel. C'est fait. » Enfin, ça, c'est moi qui l'ajoute.
C'est pas de Harry de Luca pourrait dire la même chose.
Ah bah oui, effectivement, j'ai fait la même comparaison. Ouais.
Bon, alors, on a pris plus de temps qu'à l'ordinaire, mais parce qu'il le mérite, ce film de Jean-Gabriel Perriot, Une jeunesse allemande sur les écrans depuis mercredi dernier.